Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une semaine d'entretien par les temps qui courent. Par les temps qui courent, tous les soirs, une heure avec un ou une artiste ce soir, Caroline Champetier.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux avec Caroline Champetier.
L'endroit où j'ai l'impression d'être, c'est l'interprétation. Les écrivains qui savent parler des artistes ou qui savent parler d'autres écrivains, ce sont les passeurs. Moi, j'aurais l'impression d'être dans ce genre de catégorie, d'interprète ou de passeur. Voilà ce que vous disiez, Caroline Champetier, dans un film Conversation avec Bruno Nuiten, qui fut un temps directeur de la photographie et dont vous dessinez une sorte de portrait. C'est un dialogue entre connaisseurs, ce film, car vous êtes aussi directrice de la photographie et le Festival de La Rochelle rend hommage à votre travail en programmant une rétrospective des films dont vous signez la lumière, parmi lesquels Holy Motors de Léo Carax, Toute nuit de Chantal Akerman, Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma de Jean-Luc Godard ou encore Anna Arendt de Margaret von Trotta. Bonsoir à vous, Caroline Champetier.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Et donc, on a rendez-vous du 28 juin au 7 juillet 2019 pour la 47e édition du festival La Rochelle Cinéma, où a lieu cette rétrospective. Évidemment, bien d'autres choses qu'on peut retrouver en ligne sur le site internet du festival. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par un extrait de ce film que vous consacrez à Bruno Nuiten.
Quand tu dis la sensation de cette lumière-là, quand tu traversais le Pré-Chamblain, tu peux décrire physiquement c'était quoi?
Ça me mettait au bord d'un malaise, quoi.
Trop de lumière.
Ah ouais.
Et qui venait par au-dessus.
Bah, c'était surtout sans doute dans les derniers mois de scolaire, c'est-à-dire quand c'est déjà l'été ou presque, tu vois, jusqu'à la fin juin, début juillet, je sais pas, tu vois, c'était. Je sais que j'ai des souvenirs terribles de pas tant de la chaleur que de la lumière, quoi. Et ça me perturbait beaucoup parce que c'est une chose dont je pouvais pas parler. D'autant que les gens sont très heureux quand il fait beau. Et pour moi, c'était horrible. C'est resté. Je souffre énormément l'été. Cette luminosité me dépossédait de quelque chose, alors que les lumières basses ou les lumières hivernales, il n'y a pas d'autre mot, hein, ou de fin de jour, ou de début de jour, tu vois, me réconciliaient avec quelque chose.
Il dit qu'il a du mal à en parler, pourtant il en parle si bien. Bruno Nuiten, à votre micro. Caroline Champetier, est-ce que c'est difficile de parler de la lumière?
Oui, en fait, là précisément, quand Bruno raconte ce malaise de jeune homme ou presque d'enfant, c'est qu'il n'a pas vraiment conscience de ce que c'est, cette espèce de plaquage au sol que la forte lumière peut vous faire ressentir. Oui, c'est difficile. C'est facile de décrire la lumière, surtout quand elle est déjà interprétée, décrite par un peintre, par un photographe, etc. Mais décrire la lumière dans laquelle on est, puisque c'est notre élément quotidien, c'est très difficile et je pense que les gens, très souvent, n'en ont pas conscience. Il y a une chose qui me frappe incroyablement, ça correspond d'ailleurs à ce que raconte Bruno. Quand je marche dans la rue en fin de jour, j'adore ça, on voit des fenêtres allumées. Et très souvent, on voit derrière ces fenêtres allumées un lustre, une ampoule, quelque chose qui tombe du plafond. Pour moi, c'est effrayant. Se dire qu'on est le soir, alors qu'il faut avoir des lampes à sa hauteur, autour de soi, se poser sur une table, avec une ampoule au plafond, je me dis, mais comment font ces gens? Et ça, c'est la preuve que les gens ne font pas si attention que ça à l'élément vital dans lequel ils habitent, enfin, ils vivent.
C'est pour ça que même votre parole à l'instant, elle est singulière. C'est rare d'entendre les gens parler aussi précisément de la lumière ou d'y porter attention lorsqu'ils se promènent dans la rue et qu'ils voient ou pas des lumières allumées dans un appartement. Est-ce que c'est votre métier qui fait que vous avez cette observation-là? Ou est-ce que de tout temps, vous vous êtes interrogé, vous avez questionné cette espèce de bain naturel dans lequel nous sommes toutes et tous, Caroline Champetier?
De tout temps, non. On est des êtres de culture, hein, on est formés par qui on est, d'où on vient. Mon père était architecte, donc il regardait beaucoup. Il était dans la pulsion scopique et l'espace. On sait très bien que l'espace est lié à la lumière qui y pénètre. Maintenant, ce que dit Bruno, qui est à la fois une expérience très concrète, physique, c'est aussi une expérience spirituelle. C'est-à-dire que la lumière, s'il y en a trop, on n'a plus à la chercher. Et donc, la lumière, dans ce cas-là, peut s'apparenter au savoir, à la vérité. Et donc, forcément, être dans une forme d'obscurité et aller vers la lumière, c'est un chemin dans lequel on aime être. Enfin, je crois que tous les humains aiment être. La preuve en est que ce genre de lumière provoque de l'émotion chez les gens. On voit bien certains tableaux, la façon dont la flamme de la tour, mais ça peut être le reflet chez Rembrandt sur un visage, ou ça peut être une certaine couleur chez des peintres plus abstraits, où on a l'impression que tout d'un coup la lumière traverse la couleur. Ça veut dire que quand on est en position de devoir la chercher, on redevient... Il y a une forme d'humanité profonde, quoi. De chercher la lumière, de s'avancer vers la lumière.
C'est pour ça que quand Bruno Newton dit « Finalement, cette lumière d'été-là, elle me dépossédait de quelque chose », vous diriez qu'elle le dépossédait du chemin vers la lumière, quoi.
Absolument.
Elle le dépossédait de son manque, d'une certaine manière.
Absolument. Ouais.
Pourquoi vous avez décidé d'engager cette conversation avec Bruno Newton?
Bruno, c'était dans les années 70, enfin la fin des années 70, quand je suis à l'IDEC, l'Institut des Hautes Études Cinématographiques, c'est la star de la photographie. Enfin, une des stars, il peut y en avoir quelques autres. En tout cas, c'est la mienne. Et pour beaucoup de raisons. D'abord parce que il a une façon de travailler avec des cinéastes tellement différents que je reconnais un chemin qui lui est personnel, alors qu'il peut aller de Blier à Marguerite Duras. Parce qu'il est, je pense, et maintenant le film l'a confirmé, et la proximité que j'ai de lui aussi, qu'il est assez féminin. Il a des cheveux longs, il est très beau. Sa lumière provoque chez moi une très grande émotion. Et surtout une envie de faire la même chose, quoi, de reproduire cette lumière un peu mystérieuse, avec beaucoup de matière. Là, je peux parler de Zozero, ou je peux parler par exemple, le film de Téchiné à Biarritz, Hôtel des Amériques, c'est ça? Où il y a quelque chose de la lumière qui vous est offert, mais comme une chose physique que vous pouvez prendre. Et voilà, après, évidemment, le fait que Bruno se soit retiré, un peu comme Rimbaud, qu'il ait arrêté de faire de la lumière et du cinéma, ben ça m'a questionnée. Ça ramène à quelque chose qu'on a tous, c'est-à-dire, et dont Gianni parlait d'ailleurs très bien, on a tous très peur de faire un film et donc très envie de s'enfuir. Et en même temps, c'est ce double mouvement d'aller et de s'enfuir qui fait que, qui donne toute la mesure de la tension que c'est de fabriquer ce genre d'objet.
Oui, j'allais dire du désir, d'une certaine manière. Dans les cartons du début de ce film, Caroline Champetier, que vous réalisez donc, vous parlez de l'intelligence de sa désertion. Vous dites, c'est parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui fait sens dans le fait de s'être retirée, que j'ai posé des questions à Bruno Nutten, à la fin de ce film et peut-être après toutes ces heures de conversation, qu'est-ce que vous avez compris de ce que c'est que de décider d'arrêter de faire de la lumière au cinéma?
Je crois que Bruno Nutten arrête à un moment très précis du cinéma où fabriquer beaucoup des effets visuels d'un film ne se fera plus sur le plateau. Et c'est fondamentalement un méliésien, si on considère que le cinéma est soit du côté de Lumière, soit du côté de Méliès. Moi, je revendiquerais d'aller de l'un à l'autre, ce qui n'est pas évident du tout. Puis, d'ailleurs, peut-être que j'ai été beaucoup du côté de Lumière et que c'est pour ça que j'ai envie d'aller aujourd'hui du côté de Méliès. Mais lui, et c'est peut-être aussi ça qui m'a fait le voir avec étonnement et avec intérêt. J'ai senti ça sans le formuler, je ne l'aurais pas formulé à l'époque. Il fabriquait beaucoup, c'est-à-dire qu'il filtrait, il flashait, il faisait des opérations techniques sur l'image qui la refabrique, qui la transforme. Et ce genre d'effet, je crois qu'il adorait le faire sur le plateau. Et aujourd'hui, les VFX, hein, ce qu'on appelle les VFX, c'est-à-dire le travail digital de l'image, qui est devenu maintenant entièrement digital, comme vous savez, puisque ce n'est pas une image argentique, eh bien, ça l'amuse moins.
Et vous ?
Donc, en fait, c'est comme un... Ouais, c'est comme un menuisier qui aurait... Vous voyez, c'est quelque chose de très artisanal, hein, qui lui a été retiré. Moi, je dois dire que je suis assez... semblable à lui, et j'ai la chance de travailler, par exemple, quand on travaille avec Léos Carax, la question, justement, de ce qu'on appelle les effets spéciaux, c'est-à-dire le compositing de l'image, fabriquer une image qui n'est pas faite simplement de choses réelles, mais de choses qu'on rajoute, soit en VFX, soit qu'on manipule sur le plateau, ça peut être de la brume, ça peut être une projection qui est comme un fond, ce qu'il y a dans Holly Motors. Holly Motors, le fond, quand la voiture avance, c'est une projection sur un écran, hein, c'est pas un vrai paysage.
C'est pas un décor.
Oui, j'aime ces choses-là, cette fabrication-là, elle est assez enthousiasmante.
Et elle ne vous a pas retiré le plaisir de l'artisanat tel que vous le décrivez pour un menuisier ou pour tout autre
C'est quand même très différent. L'argentique, c'était extraordinaire. Si vous voulez, l'argentique, c'était vraiment, on le touchait tout le temps. C'était une matière.
Oui, j'allais dire ce mot-là que vous utilisez souvent, la matière. Mais vous pouvez continuer à penser la lumière comme une matière en filmant en numérique, en travaillant avec des artistes qui filment en numérique?
On s'y oblige, oui. Oui, ben, on sent très bien quand même, dans toutes les images qui nous entourent, on sent très bien qu'il y a deux tendances. On sent très bien qu'il y a une tendance qui va vers quelque chose de l'ordre de la matière, de l'ordre d'une forme de respiration, de granulation, et puis quelque chose qui est lisse, quelque chose qui va vers l'effacement de cette matière. Tout le monde le voit. Oui, bien sûr, je crois que là, faut faire des choix, quoi. Et moi, je serais du côté de poursuivre du côté de la matière de l'image. Et elle devient... On la fabrique différemment maintenant, oui, bien sûr.
Moi, j'ai choisi qu'on commence par entendre cet extrait de votre film à propos, ou avec plutôt Bruno Nutten, parce que vous êtes finalement très présente, Caroline Champetier, dans la manière dont vous lui posez des questions, ou amenez aussi de la matière dans cette conversation.
Alors que je parle très peu.
Ouais, mais vous êtes quand même hyper présente. Parce que c'est aussi votre regard, vous ne le filmez pas lui, vous filmez une maison en train de se faire, de se refaire, un plancher, il y a des extraits de... Vous êtes présente. J'ai été très émue par ce souvenir d'enfance parce qu'il est rapporté dans sa complexité avec beaucoup de précision. par Bruno Nuiten sur la lumière de l'été qui le dépossédait. Est-ce que vous avez un souvenir se rapportant à la lumière qui, comme ça, structurerait votre futur rapport à ça dans le cinéma et dans ce qui est aujourd'hui votre vie et votre métier?
Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que le souvenir de Bruno m'a, enfin, ce qu'il raconte m'a tellement plu. J'habitais à Paris, dans le 16e, dans un boulevard qui s'appelle le boulevard Beau Séjour, qui est infini, parce qu'il va de la place de la Muette à la porte d'Auteuil, où il n'y a aucune boutique. Et pour un enfant, c'était absolument sinistre et terrifiant, et particulièrement l'hiver. Et la caractéristique de ce boulevard, c'est qu'il y avait un côté où marchaient les piétons et l'autre côté où c'était plutôt pour les chiens et où il y avait donc de la terre battue, des arbres et des réverbères. Et du coup, marchant sur le côté pour les piétons, la seule scansion que j'avais du temps et de l'espace, c'était ces réverbères et les arbres et les branches des arbres devant. Et effectivement, l'hiver, forcément, la nuit tombant tôt, ces réverbères étaient allumés, essentiels. Et je me souviens très bien, je me souviens du nombre de réverbères, de la façon dont les branches des arbres étaient en contre-jour devant ces halos lumineux. Et j'étais déjà dans la recherche de la lumière, quoi. Oui, oui, c'est un souvenir très précis.
On écoute Léos Carax.
Mais c'est-à-dire, pour moi, c'est du plaisir pur, c'est jamais difficile. Je devrais pas dire des choses comme ça, mais enfin, c'est vrai, quoi. C'est-à-dire, peut-être que je suis psychotique, mais le fait de partir comme ça, sans rien savoir, et de faire en sorte qu'un jour, ça soit là devant moi, c'est un plaisir qui n'a jamais le nom de la difficulté. C'est des choses qui s'imposent, ça devient absolument nécessaire de faire comme ci ou de faire comme ça, etc. Et c'est une espèce de chose absolument bouleversante, quoi. Peut-être parce que c'est exactement le contraire de la vie. C'est-à-dire que dans la vie, on peut pas faire ce dont on rêve. Et là, par le fait du cinéma, on peut exactement faire tout ce dont on rêve. La sensation principale n'est pas celle de la difficulté, c'est celle d'une espèce de magie, d'émerveillement. Moi, ça me ferait plutôt penser au Ravi de la Crèche. Le Ravi de la Crèche, c'est un personnage de la tradition provençale qu'on appelle le Ravi. Est-ce qu'il est stupéfait tous les matins dès qu'il ouvre les yeux de voir ce qui l'entoure? Moi, c'est plutôt un effet comme ça que ça me ferait, même si c'est vrai que c'est pas donné, quoi. C'est-à-dire qu'il faut tout préméditer, il faut tout obtenir.
Et des risques quand même.
Mais les risques, moi, c'est bizarre, mais je n'ai jamais peur avant ni pendant, j'ai peur après. Donc je suis très protégé, en fait.
Vous parliez de l'envie de fuir autant que de l'envie de faire. Caroline Champetier, c'est une archive de 1991. Léos Carax, avec qui vous avez fait Holly Motors, vous êtes en tournage ou vous allez tourner pour...
On va tourner.
Vous allez tourner bientôt. C'est intéressant, lui dit « je n'ai pas peur pendant, je n'ai pas peur avant, j'ai peur après ». Et vous disiez tout à l'heure « on a toujours un peu peur avant ». Alors ça veut dire que votre peur, en tout cas la peur de chacun, est singulière en fonction de qui on est ou en fonction aussi de l'équipe, de la place qu'on occupe dans l'équipe?
D'abord, je suis étonnée par la voix de Léos.
Ah ouais,
c'est fou ce qu'elle est
moi
jeune.
Moi aussi.
Sa voix est devenue beaucoup plus grave.
91, hein, ça fait 28 ans.
Avec la cigarette et le reste. Mais bon, oui, moi je crois qu'on a peur tout le temps. Alors, c'est simplement que pendant, il la sent plus. On la sent plus, mais on a quand même encore peur. Et puis, je crois que ce que Léos redoute, c'est le choc avec le public ou cette pression tout d'un coup, alors que lui a été au bout de son rêve, bah, que ce rêve-là ne devienne pas celui des autres et du public. Pendant qu'on prépare et pendant qu'on tourne, le rêve devient commun. C'est-à-dire le sien devient le nôtre. Et quelquefois, les bribes du nôtre deviennent le sien.
Encore faut-il bien se rencontrer, Caroline Champetier, pour partager des rêves de cette intimité-là. C'est-à-dire ce qu'on entend là, c'est aussi le ravissement de voir apparaître des visions intérieures, éventuellement des visions inconscientes, des rêves. D'un seul coup, tout le monde participe, ou votre dialogue avec lui, ou participe à ce que ça apparaisse. Faut bien se rencontrer.
On croit toujours qu'un metteur en scène, ça sort de son chapeau. Hein? Mais non. Un metteur en scène, ça sort pas de son chapeau, ça se fabrique avec peut-être des dessins que Fellini faisait ou des descriptions ou des références. Chez Carax, il y a beaucoup de références absolument fantastiques. Il nous envoie beaucoup de liens YouTube où on voit et tout d'un coup on comprend ce
qu'il cherche.
Ce que peut être, l'énergie, le mouvement d'une séquence, etc. Donc, les images ne sortent pas toutes faites, elles sont fabriquées et cette fabrication, elle est dans le cinéma, mais essentielle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on les fabrique de moins en moins. La plupart du temps, ce qu'on voit sur les écrans, c'est des images qui ne sont pas fabriquées. C'est de l'enregistrement pur de deux personnes dans un espace ou trois personnes. Là, et c'est pour ça que je parlais de Méliès, là, on est dans des couches de travail. Et on parle aujourd'hui de compositing image, mais de niveau de ce qu'on va mettre dans l'image pour accéder à, cette idée rêvée, qui est d'abord le rêve de Léos, mais qu'on est obligé de faire nôtre, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple un peu concret de ces couches, Caroline Champetier ?
Alors, un exemple que j'ai beaucoup donné, mais après tout, je peux le redonner. Dans Holly Motors, quand on doit faire une séquence qu'on appelle mocap, c'est-à-dire motion capture, et que Léos nous dit ce que je voudrais, c'est voir des corps avec des ampoules danser et faire de la gymnastique ou de l'équilibre dans l'air. On se dit oui, d'accord. Alors on va dans un studio de motion capture, on comprend ce que c'est que les combinaisons motion capture avec les petites ampoules, et on comprend très vite que quelqu'un qui fait de l'acrobatie, qui va se rouler par terre, il pourra pas avoir des petites ampoules. Alors on laisse reposer un petit peu, et puis on parle entre nous, et moi je parle avec mon chef électro. À l'époque, Stéphane Bourgoin, je dis, mais... Et il lance une chose, il dit, et si on travaillait avec de la fluorescence ? Et tout de suite, quelque chose s'enclenche, qui est, ah bah oui, d'accord. Bah on va mettre des petits disques fluorescents sur la combinaison des acrobates. On essaye, on met des disques plats. C'est pas mal. Il y a quelque chose, mais on n'est pas convaincu. Donc on se dit non, ça doit être autre chose, ça doit être en volume. Parce que comme ça, là, ça fera plus ampoule, source lumineuse. Parce qu'une source lumineuse, étrangement, elle n'est pas plate, elle a du volume.
Elle est sphérique, quoi.
Elle a du volume. Mais c'est un volume, en fait, d'une certaine manière fantasmé. Et donc, on met comme des petites demi-balles de tennis sur ces combinaisons, qu'on a peint avec une peinture fluorescente, on éclaire ça avec de la lumière noire et ça fonctionne. Et on se dit, mais c'est ça qu'il faut faire.
C'est vraiment des petites balles de tennis avec de la peinture fluorescente.
C'est pire que des balles de tennis, je peux vous dire. C'est pas des balles de tennis, je crois que j'ai dit ping-pong. C'est ces petits cercles qu'on met derrière les portes pour arrêter les portes et qu'elles ne cognent pas dans les murs.
C'est dingue quand on sait la scène prodigieuse que c'est au final à l'écran. Que ce soit un bricolage de cet ordre-là, Caroline Champetier.
Mais c'est ça que quitte Bruno Nuiten quand il dit qu'il ne s'amuse plus sur un plateau. C'est fabriquer des choses comme ça, vers lequel on avance doucement. On peut pas avoir cette idée, vous voyez. C'est pas Léos qui est arrivé en disant ah mais je sais, on va faire ça. Non. C'est nous tous qui avons avancé les uns avec en s'écoutant, les uns avec les autres pour obtenir ça.
Et en ayant du temps, parce que quand vous dites finalement on va voir ce studio de motion capture, on se rend compte que ça va pas être possible, donc on laisse reposer. À quel endroit aujourd'hui on peut dire ok les gars, on laisse reposer, on dort là-dessus, on sort pas? C'est rare aujourd'hui.
C'est de pas enchaîner les films, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que enchaîner les films, c'est comme enchaîner les rendez-vous, c'est comme enchaîner tout dans la vie, c'est comme enchaîner les enfants. Je crois que il faut pas enchaîner, et c'est le luxe que je peux m'offrir maintenant. Mais je l'ai toujours plus ou moins fait, c'est de préparer les films et de rentrer dedans, de rentrer dedans. Parce que c'est pas forcément vous qui rentrez dans le film, c'est vous, c'est le film qui rentre en vous. D'ailleurs, l'assistante, l'autre jour, elle m'a dit « ça y est, je crois que j'y suis, je crois que j'ai le film, je commence à rêver ». Ça veut dire on est dans ce travail-là de se faire pénétrer par quelque chose.
Bruno Newton, dans votre film, prononce le mot de possession. C'est quelque chose que vous pourriez reprendre, Caroline Champetit.
Oui, tout à fait.
Il y a un moment donné, on est comme possédé par le film et c'est là qu'on commence vraiment à travailler.
On est possédé et c'est pas facile pour les gens qui vous entourent. Je crois que mes films en veulent beaucoup de diverses possessions qui ont été les miennes, ouais. Ouais.
Et il y a des fois où ça marche pas, où on s'engage sur un film et ça, il ne vient pas.
Oui, où il vient difficilement, où il vient par à-coups, oui, bien sûr. En fait, je crois que j'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène d'une ténacité exemplaire et que c'est une des qualités primordiales d'un metteur en scène.
Et c'est-à-dire, ça veut dire quoi exactement?
Vous vous rendez compte de tenir un désir pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans? Là, si on tourne à net, ça fait 5 ans que Léo a écrit le scénario. Que les Sparks sont venus le voir pour lui proposer ce livret, etc. Donc, tenir un désir pendant 5 ans, c'est extraordinairement... Moi, je suis très admirative de ça chez les metteurs en scène.
Si, j'ai appris quand même une chose essentielle, c'était, il m'avait dit, si tu ne sais pas éclairer, commence par regarder comment ça fait la lumière qu'il y a dans la pièce. Une lampe, si elle est allumée, le soleil s'y rentre par la fenêtre, le gris, si c'est du gris. Et essaye de reproduire ça. Ne te pose pas d'autres questions. Et effectivement, c'est une chose, mais même en studio, hein, que j'ai fait beaucoup, c'était m'installer dans les décors. Quoi. Quitte à y dormir. Même en studio, je l'ai fait souvent, ça. Alors, c'est pas dormir la nuit. Hein. En studio, tu veux pas dormir la nuit. Enfin, ça m'est arrivé, mais enfin, c'est exceptionnel. Dans une maison, tu peux. Et puis surtout, il y a des moments de pause où les gens vont bouffer, tout ça. Tu peux aussi rester un quart d'heure allongé dans un décor, dans le silence. Il n'y a plus de lampe allumée, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'un pauvre service. Regarder comment c'est fait, la lumière, c'est aussi regarder comment c'est fait, le décor. Où est-ce que les choses pourraient se cacher? Comment tu filmes ça? Où tu te mets Et puis c'est une façon de s'inscrire dans l'histoire qu'on est en train de raconter.
Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Caroline Champetier.
C'est encore un extrait de votre film. Caroline Champetit qui nous permet de parler de votre travail, Bruno Newton qui parle du rapport au décor et qui dit qu'il est prêt à dormir dedans, une petite sieste comme ça, pour pouvoir mieux l'observer. Est-ce que ce sont des choses qui qui valent encore justement pour la manière dont le métier se fait aujourd'hui. Regarder le décor, l'appréhender, l'observer, regarder comment se comporte la lumière naturelle.
Ah bien sûr, parce que ça n'a pas changé. Enfin, c'est ce que la nouvelle vague apporte au cinéma. C'est cette révolution du décor naturel, comme on dit. Donc s'il y a décor naturel, il y a lumière naturelle. Et effectivement, c'est par exemple ce que je fais quand sur des hommes et des dieux, je reste longtemps, d'autant qu'on est au Maroc, l'équipe est là, on est là, des journées entières dans le décor pour voir comment le cycle de la lumière, oui, ou la façon dont la lumière se déplace dans les bâtiments, bien sûr.
Mais c'est-à-dire quand vous vous dites la manière dont elle se déplace, c'est-à-dire vous la regardez bouger, vous regardez où elle se pose, vous regardez
le matin, c'est là. Si on a envie de la suivre, le matin elle est là, à midi elle est là, et puis quand l'après-midi elle se déplace, voilà, ça c'est, on la suit. On peut vouloir l'éviter aussi. On peut, oui, la lumière bien sûr, elle si elle se déplace, elle vous impose de se déplacer avec elle.
Ce film-là de Xavier Beauvois est un film où justement le décor est important parce que il appelle une certaine condition de vie de ces hommes, de ces dieux qui sont filmés et qui sont racontés. Vous en êtes parlé comment de cette lumière avec Xavier Beauvois? Ou vous, quelle décision avez-vous prise pour la lumière, pour cette photographie?
D'abord, il y avait un formidable décorateur sur le film, Michel Barthélémy, qui a absolument compris, je dirais, les enjeux d'arriver à faire comprendre le partage de l'espace et ces petits espaces individuels que sont les cellules. Les cellules sont restées, c'était un ancien couvent dans lequel on a tourné, au Maroc, évidemment pas en Algérie, vous comprenez pourquoi, dans le Moyen Atlas. Les cellules sont restées les vraies cellules, c'est-à-dire des extrêmement petits espaces dans lesquels rentrer une caméra, c'était déjà presque trop. Donc la tenir sur soi, la tenir sur le genou, sur l'épaule, c'était ce qu'il fallait. Donc, je dirais une extrême adaptabilité à la fois à la lumière telle qu'elle se déployait dans ces espaces et adaptabilité aux différentes dimensions de ces espaces. Voilà. C'est ça que m'a permis d'exercer le film. Bon, il y a quelque chose que je dis tout le temps, mais c'est le film avait un sujet qui nous en imposait, en quelque sorte.
C'est-à-dire?
Et puis, ça veut dire c'était l'histoire de gens qui ont donné leur vie pour, d'abord pour ce qu'ils croyaient, mais aussi pour ne pas dénoncer la population dans laquelle ils avaient choisi de vivre.
En Algérie, donc, en l'occurrence.
En Algérie. Donc, on peut parler de sacrifice, on peut parler de rigueur, on peut parler de beaucoup de choses. Chez Xavier, c'était pas une question de foi, c'était une question d'intelligence. Quand je lui ai demandé, mais Xavier, toi qui ne crois ni à Dieu ni à diable, et plutôt plus à diable qu'à Dieu, pourquoi tu veux faire ce film? Il m'a répondu, mais pour moi, c'est pas une question, ça n'a pas à voir avec la foi, ça a à voir avec l'intelligence. Donc, ça m'a ouvert quelque chose. J'étais plus dans une problématique ou quelque chose, où même les représentations religieuses jouaient. J'étais en direct avec des hommes et leur façon de se parler, d'appréhender le monde. Et du coup, c'est pour ça que les autoportraits de Rembrandt m'ont servi. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus... Qui travaille le plus près de soi, sinon un peintre qui fait son autoportrait, et il en a fait un certain nombre. Et ça m'a permis de regarder ces hommes, donc les moines, avec cette espèce de... Je pense que c'est à la fois de l'amour et de la cruauté, quoi. C'est une façon lucide de se regarder.
Et quand vous dites Rembrandt m'a servi, concrètement, ça veut dire que vous regardez les peintures, vous allez voir les tableaux dans le meilleur des cas ou des reproductions, et vous cherchez cette matière-là lumineuse ensuite sur le plateau?
Oui, je cherche des éclats de lumière. Je cherche, suivant comment ils sont disposés, on était en décor naturel, hein, dans ce qu'on appelle la salle du chapitre, je crois que ça s'appelait. où on lit le chapitre, la lumière a une façon de rentrer dans l'espace et de se refléter sur une surface claire ou pas, ceux qui sont à contre-jour ou pas, qui fait que chacun, j'essayais de le travailler dans sa lumière. Et je dirais en le resserrant dans sa lumière. D'ailleurs, je me souviens très bien que quand je prenais un peu trop de temps, et ça m'est arrivé parfois, parce que c'était vraiment comme des portraits, hein, c'était l'un puis l'autre, puis l'autre. Xavier râlait en disant « Bon, allez, Rembrandt, c'est fini maintenant.
» Vous disiez « Ce sujet nous en imposait », et en effet, au tout début de l'entretien, Caroline Champetier, vous parlez de cette recherche de lumière, que finalement, là où elle nous intéresse souvent, c'est quand elle manque, c'est quand on va vers elle, c'est quand on est dans l'obscurité. Évidemment, avec des hommes et des dieux, la question de la spiritualité, de la lumière, mais aussi toutes ces représentations qu'on peut avoir en tête, c'est-à-dire la lumière divine qui tombe sur les hommes, la manière dont un ange va être une lumière arrivant sur un humain, la manière dont parfois on est révélé par la lumière à la question divine. Ça, c'est des choses avec lesquelles il faut se débattre ou ça n'a pas tellement de place dans votre imaginaire.
Si. Bien sûr, parce que tout ce qui a été représentation qui nous a précédé, ça, c'est passionnant. Mais alors les représentations, elles continuent toujours. Par exemple, on pourrait dire aujourd'hui, je dévie vers la couleur. Je me dis, la lumière, comme j'ai beaucoup travaillé sur le motif, quand je dis sur le motif, c'est en décor naturel, et avec des cinéastes qui sont en quelque sorte naturalistes, réalistes, je me suis vraiment beaucoup interrogé sur la lumière naturelle, le soleil, les reflets, la façon dont elle peut être déviée par des rideaux ou obstruée, ou etc. Et puis, plus on rentre vers cette fabrication, cette composition d'images dont je parlais tout à l'heure, à propos de Méliès, qui lui était en noir et blanc, il y a quelque chose qui arrive et c'est la couleur. Et là, j'ai envie de m'y confronter plus. C'est-à-dire de travailler des oppositions de couleurs et la lumière, mais ça, les peintres abstraits l'ont fait avant moi, hein, j'invente rien, et la couleur devenant la lumière.
Comment vous choisissez les projets sur lesquels vous vous lancez? Parce que vous disiez, voilà, ces cinéastes avec lesquels j'ai travaillé, qui sont réalistes. Est-ce que c'est parce que vraiment vous connaissez leur travail? Est-ce que vous voyez ça sur un scénario? Quand vous faites un premier film, par exemple, des Pleuchins, vous savez comment que ça va être intéressant du point de vue de la lumière?
Des Pleuchins, c'est particulier parce que des Pleuchins, c'est le premier cinéaste de ma génération. Quand je commence avec des maîtres, des dinosaures. Je commence avec Godard, avec Rivette, avec même Ackerman. Je ne veux pas traiter Ackerman de dinosaure, mais Ackerman, elle en sait beaucoup plus que moi quand elle m'entraîne pour faire toute une nuit. Et là, il y a 10 ans qui s'écoulent. Et puis, un jour, je travaille avec Arnaud Desplechin, et là, j'ai le sentiment d'être à hauteur, quoi. Et de pouvoir proposer d'ailleurs des choses qui viennent de ces cinéastes qui m'ont tellement appris, quoi. Il y a un truc dont on ne parle pas assez, c'est la pollinisation des directeurs photos d'un cinéaste à un autre. Parce que moi j'ai énormément appris avec un cinéaste, par exemple, chez Doyon, à savoir bouger la caméra, manier la caméra, et puis je le déplace à d'autres cinéastes. Je l'ai déplacé chez Anne Fontaine dans Les Innocentes. C'est des mouvements qui viennent directement de chez Doyon. Quand je dis directement, c'est pas...
Bien sûr, oui. Par donc, porosité, quoi.
Oui. Donc, je me suis perdue en route.
Non, pas vraiment. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez en face d'un cinéaste de votre génération qui est Arnaud Desplechin et qu'est-ce que ça change dans votre travail? Parce que Godard, quand il vous fait venir, il dit « je cherche quelqu'un qui en sait, mais pas trop ». Quand vous travaillez avec quelqu'un qui commence à faire ses premiers films, c'est même pas à égalité, parce que finalement, vous avez un bagage derrière vous, Caroline Champetier, qui change la donne.
Oui, d'ailleurs, ça change tellement la donne qu'en fait, Arnaud a préféré après travailler avec... je pense que ça... Oui, ça devait le déranger un petit peu. En même temps, c'est pas si sur Godard, on fabriquait ensemble. Alors que Arnaud, il avait beaucoup de travail à diriger les acteurs, etc. Mais en même temps, comme il avait été opérateur, il avait un regard sur l'image. La difficulté de la Sentinelle, ça a été les 70 décors. C'est-à-dire comment on arrive à faire, à fabriquer une sorte de continuité de lumière, quelque chose qui se tienne, qui soit une forme continue, dans 70 décors. Vous voyez, sur, je sais pas, on a eu 12 semaines quoi, pour fabriquer le film.
Parce que c'est toujours le mot maître, la continuité.
Ah bah, on emmène quand même les gens dans quelque chose dont ils ne doivent pas sortir. Donc, oui, c'est comme une promenade. Si on s'arrête et si on sort le bivouac et tout, bah, normalement, il faut que ça continue, oui. Et que ça aille jusqu'à la fin.
Par exemple, pour revenir à Holly Motors, finalement, il y a aussi une grande disparité des décors dans lesquels sont tournées les scènes. Et comment est-ce que vous avez réussi à créer cette continuité-là dans les deux films? Ça passe par quoi? C'est-à-dire que vous trouvez, à un moment donné, vous trouvez une identité de la lumière pour le film?
Oui, oui. Oui, bien sûr. Et une identité, alors c'est un mot bon, générique, mais par exemple, le noir, là où on place le noir. Pour ça, il y a une opération extrêmement importante quand on finalise l'image d'un film qui s'appelle l'étalonnage. Et où le niveau de noir, qui peut être différent, les très grands opérateurs étaient des gens qui avaient des noirs constants. C'est vrai que maintenant, je pense que moi, je m'y attache encore beaucoup parce que j'ai été formée comme ça. J'ai été formée avec la cellule, à l'argentique. Et placer ces noirs, c'est la première opération du directeur photo. Je suis sûre que beaucoup de jeunes directeurs photo travaillent avec des niveaux de noirs très différents selon les séquences et puis qu'ils égalisent ça à la fin à l'étalonnage.
Concrètement, comment on place un noir ?
Placer un noir, c'est quand vous regardez quelque chose, vous avez des basses lumières et des hautes lumières, vous avez des lumières médiums, et placer le noir, c'est placer l'endroit le plus bas de la lumière, là où il n'y en a pas.
Donc là, dans ce studio, c'est le coin là-bas, quoi.
Voilà, là. Ça serait là.
Ça va très vite quand même. Je vous pose cette question, vous n'y aviez pas forcément pensé, direct vous le...
Oui, mais ça c'est l'habitude. Si vous voulez, quand vous travaillez dans des espaces, par exemple en studio, si je travaille quelques jours, au bout de 4 jours, j'ai plus besoin de ma cellule, au bout de même très peu de temps. C'est-à-dire qu'on a son niveau de noir, on l'intègre et puis on le suit. Ce qui est vachement difficile, c'est quand on change d'espace tout le temps, quand on passe de l'extérieur à l'intérieur. Et, par exemple, de poser en extérieur ce fameux pré-Chamblin, c'est pas facile. C'est pas facile. De savoir où on met une ombre qui d'ailleurs n'est quasiment pas là puisque visiblement le soleil était complètement zénital, c'est pas facile.
Et alors comment vous êtes débrouillé pour la Sentinelle? C'était quoi vos solutions?
Alors ça a été de prendre le problème à l'inverse et de dire bah, puisqu'il y a énormément de décors, on va faire comme si on faisait plusieurs films. Et finalement ces différents modules... Et c'est un peu ce qui se passe aussi dans Holly Motors. Ces différents modules, on a une façon de les travailler tellement proche de ce qu'ils sont qu'on retombe sur une sorte de continuité.
Moi, j'ai toujours eu envie que... Je trouve que un visage c'est très beau. J'ai toujours essayé de tenir compte de la photogénie, mais aussi des traits des personnes, des acteurs, des actrices. Mais c'est la même chose pour les hommes, pour qu'ils soient beaux. Parce que je trouve que ça, c'est quand même la beauté, mais beauté c'est très très vaste hein, pour moi. C'est pas seulement une beauté plastique, canon, pas du tout. C'est comment, en regardant un visage, en filmant un visage, on peut arriver à donner l'impression qu'on va peut-être un petit peu connaître quelque chose de cette personne. C'est-à-dire que c'est un leurre total, parce que... Mais quand même, moi j'y crois. Et je crois à ça pendant tout le film. Et j'essaye toujours de trouver ce mystère, essayer d'arriver à voir cette part de mystère qu'il y a dans chacun. C'est comme dans la vie, du reste.
C'est la voix d'Agnès Godard en 2016 sur France Inter, qui parle du mystère de chacun. Tout à l'heure, vous parliez de filmer les hommes dans leur lumière. Est-ce que, avec le temps, Caroline Champetit, vous vous êtes approchée de ce que c'est que la lumière de quelqu'un, qui est une expression qu'on utilise parfois pour dire « Ah, c'est quelqu'un de très lumineux » ou « quelqu'un de très lumineuse ». Est-ce que vous savez maintenant à quoi ça tient?
Oui, bien sûr. Outre le fait que tout ce que dit Agnès, je le reprendrai à... Pour moi, c'est extrêmement juste et bien dit. La lumière, il y a des choses qui sont extrêmement physiques et qui sont entre autres la peau. Et la peau d'une actrice, c'est essentiel. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai assez vite compris.
C'est-à-dire plus qu'un acteur.
C'est-à-dire que la peau d'une femme a quelque chose de plus lumineux, finalement. De plus lumineux. Et puis, on sait l'importance que ça a dans la façon dont on regarde une femme. Alors qu'un homme, je ne sais pas si on regarde ses formes, on regarde son expression, on regarde quelque chose qui sort de lui, mais pas la peau de la femme. Alors pourquoi, après, ça devient... On peut réfléchir longtemps là-dessus, mais oui, je crois que c'est plus important pour une femme que pour un homme.
Alors donc vous disiez, la lumière de quelqu'un, ça tient à sa peau.
Ça tient à son regard. Et ça, le regard, c'est fondamental. C'est comment on l'éclaire, donc toujours l'éclairer. Et quand on ne l'éclaire pas, à peu près savoir pourquoi. Par exemple, dans le début du Parrain, les yeux de Brando ne sont pas éclairés. Parce que justement... ils ont décidé qu'il ne fallait pas que ça le soit. Et c'était presque une révolution dans la lumière de cinéma, ça, cette façon d'abstraire le regard de l'acteur. Donc, oui, c'est les yeux. Et puis, après, c'est la façon dont il se déplace, dont il bouge. Mais ça peut être des mouvements infimes, comme ça peut être des mouvements plus rapides. Il y a quelque chose de l'ordre, dans le rythme d'un acteur, il y a quelque chose de lumineux.
Quand Agnès Godard dit « apprendre à regarder tous ces gens qui jouent la comédie », c'est s'approcher de ce que c'est que le mystère de quelqu'un. Le temps passe, vous avez quand même quelques films à votre compteur, Caroline Champetier. Est-ce que c'est une question que vous approchez de manière de plus en plus précise, cette idée-là ? Le mystère des êtres.
En tout cas, ce à quoi je crois, c'est que, je le dis d'une autre façon qu'Agnès, c'est que le cinéma, il filme l'intérieur des gens. C'est pour ça que c'est quand même un peu dangereux. À la fois pour ceux qui filment, mais aussi pour ceux qui sont filmés. Et donc, on ne peut pas tricher tant que ça. Et nous, notre travail, ça serait qu'effectivement cet intérieur soit abordable, qu'on puisse peut-être s'en approcher. C'est pour ça que les actrices, finalement, du cinéma noir et blanc, les icônes comme Garbeau, comme Marlène, avaient cette luminosité voulue par le metteur en scène. On sait que Sternberg éclairait lui-même Marlène. C'est une surface totalement réfléchissante, Marlène, dans les films de Sternberg. Parce que on ne s'arrête pas. Si on réfléchit, évidemment, on la trouve belle, on la regarde. Mais on ne s'arrête pas à sa forme. On va derrière, et ça, c'est ce qui appartient à la fois à Marlène, à Sternberg, au directeur de la photographie. On va vers le personnage. Donc, quand Agnès dit le mystère des êtres, c'est pas forcément l'être qu'on filme.
C'est le personnage.
C'est cet être que la personne qu'on filme, que le metteur en scène crée, et c'est le personnage, oui.
Je pense que quand je vous écoute parler, Caroline Champetier, à Eve Mendes dans Holy Motors, elle est en train de se faire photographier par un photographe de mode et puis elle va être ravie par Denis Lavant. Et il y a un gros plan sur son visage avec ses faux cils très maquillés que je trouve bouleversant, moi. Malgré le maquillage, malgré le caractère presque artificiel de cette lumière-là, puisqu'ils sont en plein shooting mode, et qui est une manière d'atteindre une intériorité. Et je me dis, mais avec quelle chimie, quoi.
Alors, d'abord, je vais préciser que cette image-là, elle a été faite par Yves Kep, parce que je suis partie sur Hannah Arendt, et la dernière...
De Margaret von Trotta.
Semaine du film a été donc assurée par Yves. Et ce sont des séquences effectivement magnifiques. Mais ce que je peux dire, c'est que ça, c'est de la lumière quasiment naturel, parce que bon, il y a quelques spots, mais c'est fait. Et que je crois que là, le regard de Léos sur la star et sur la façon dont il l'a grimée, et elle, ce qu'elle renvoie comme idée de star, ben c'est ça qui fait le plan, oui, bien sûr.
Vous vous souvenez avoir été émerveillée en éclairant, alors prenons des femmes par exemple, certaines actrices sur certains tournages?
Souvent, souvent. Isabelle Huppert certainement, parce qu'elle sait très très bien offrir son visage à la lumière. Daniel Darieux, sur le tournage d'Anne Fontaine, Nouvelle Chance, où j'ai eu le sentiment d'éclairer un visage de femme que je ne retrouverai plus jamais, c'est-à-dire une grande actrice, vieillissante, dans quelque chose de naturel. Et je me disais, ça, c'est peut-être la dernière fois que... je ne parle pas de documentaire, hein, je ne parle pas de femme que j'irai filmer dans les champs ou ailleurs. Oui, et puis, il y a le visage de Ponette dans Ponette de Jacques Doyon. Enfin, là, tout d'un coup, passer 3 mois devant le visage d'une petite fille...
De 4 ans.
De 4 ans, oui, ça, c'était extraordinaire.
Est-ce que vous pouvez dire ce que cette expérience vous a apporté, justement, puisqu'on parle beaucoup de visage, de lumière, d'éclairer, mais quand on doit éclairer Isabelle Huppert ou Eva Mendes, bon, voilà, c'est des personnes qui sont familières de l'exercice. Quand il s'agit de filmer une enfant de 4 ans, quoi, vous vous mettez au service?
Alors déjà, la lumière tombe magnifiquement sur un enfant de 4 ans, hein, c'est-à-dire que, bon, la peau... l'absence totale de marque du temps fait que... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on regarde toujours les enfants avec autant d'étonnement.
J'y avais jamais pensé, mais oui, en effet, c'est ouais, quand ils sont même, pas marqués, quoi.
C'est quand même juste miraculeux. Ce qu'on a fait, c'est que, contrairement à ce qu'aurait fait n'importe qui, de se mettre prêt avec une petite caméra et d'essayer de faire partie du groupe, hein, puisqu'il s'agit quand même d'un groupe d'enfants, d'Amponette, on s'est éloigné avec une énorme caméra et on a pris un zoom et on a eu une façon de rejoindre ces enfants tout le temps. Moi, j'ai passé donc plusieurs mois à genoux sur une dolly avec la tête à la même hauteur que le cul, quoi. Enfin,
c'est quoi une dolly?
Une dolly, c'est le petit chariot avec roues ou sans roues ou sur des rails qui fait que vous pouvez vous déplacer et monter et descendre. C'est-à-dire, c'est un outil de déplacement de la caméra. Donc, voilà, c'est de l'avoir sans arrêt piégé, quoi. Et même si le terme est impropre, c'est-à-dire l'avoir laissée là où elle était, dans son monde d'enfant, et en même temps d'avoir été la chercher en assez longue focale tout le temps. Quand je revois le film, c'est ça qui m'étonne le plus, c'est l'allongement de la focale. Mais sinon, ce que ça m'a appris qu'un acteur il joue avec lui-même, et ça m'a complètement bouleversée. C'est-à-dire qu'il va chercher des sentiments qui sont les siens. Et cette petite fille, quand elle pleurait, elle pleurait sur des choses, et elle ne le savait peut-être pas elle-même, mais elle était vraiment triste.
Ça me fait penser à ce que vous avez dit tout à l'heure du danger du cinéma, de filmer l'intérieur des gens, du danger pour ceux qu'on filme et du danger pour ceux qui filment. Alors, puisque vous êtes plutôt de ce côté-là, celles et ceux qui filment, vous diriez que c'est quoi comme genre de danger, Caroline Champetier, auquel vous faites face ?
De ne pas savoir regarder, comme disait Agnès tout à l'heure, de ne pas prendre le temps de regarder et de bien se placer. C'est le danger de... Enfin, il y a quelque chose, quand on filme quelqu'un, on ne peut pas tout faire. C'est ça, sur un plateau, qui est assez beau, c'est que chacun a son geste. Et filmer quelqu'un, ce n'est pas lui parler. Ce n'est pas le diriger, c'est le regarder. Donc le danger, ça serait de franchir quelque chose qui fait qu'on est à une mauvaise distance de la personne. Moi, sur un plateau, je vous vois toujours les acteurs. J'installe quelque chose de l'ordre de la distance qui fait qu'on sait qu'elle ou il est de ce côté, que je suis de l'autre et que notre façon de nous retrouver, ça sera pendant les plans ce sera indicible, mystérieux, mais c'est fondamental, quoi.
Et ça apprend à vivre ? Ça apprend sur la distance qu'on doit tenir ou ne pas tenir avec les êtres dans la vie quand ce n'est plus du cinéma ? Ou c'est l'inverse qui vaut ?
Ah non, peut-être. Je crois que le cinéma m'a appris à vivre, oui. Oui. C'est plus le cinéma qui m'a appris à vivre que la vie qui m'a... Je sais, je peux pas...
Qui vous a appris à faire du cinéma. On parle des visages, et pour revenir à ce film-là qui a été une sorte de fil rouge pour notre entretien, Caroline Champetier, vous ne filmez pas directement le visage de Bruno Newton quand il vous parle.
D'abord, j'ai mis 3 ans à convaincre Bruno de parler. Il s'était vraiment retiré du monde. Il le dit, hein. Il le dit, je suis dans mon garage, je suis dans mon atelier, je répare des pelles à tarte. Donc,
je répare tout ce qui est cassé. Mon projet.
Ouais, réparer le monde. Oui. Mais il y a quelque chose de ça souvent chez les directeurs photos, de réparer le monde. Et chez les cinéastes aussi. Hein. Et donc, s'étant retiré, je savais très bien que si je voulais l'entendre, il fallait que ça soit un peu secret, quoi. Et c'était impossible. Puis j'avais envie de le faire bien, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit une très bonne prise de son, une assez bonne caméra. Et là, j'ai choisi. Je me suis dit, ce que je veux d'abord, c'est l'entendre. À partir de ce que j'aurais entendu, je ferai quelque chose. Et très vite, je me suis... Parce que je l'ai gardé en moi, c'était c'était quand même le désir d'écouter ou d'entendre Bruno. Ça avait été les plans qu'il avait éclairés. Donc, ces plans me revenaient et je me suis servi de ça, de ce que j'aimais de lui. Et d'ailleurs, j'aime infiniment sa voix, même si on a pas mal retravaillé pour qu'il y ait vraiment une forme de continuité du débit. J'adore sa voix, je la trouve incroyablement enveloppante, intelligente. Et puis après, ses plans...
Après, c'est son cinéma qui
compte. C'était lui aussi. Et puis, cette façon dont il disait « je répare le monde », je me suis dit, un jour j'ai su qu'il refaisait un plancher, je me suis dit « oui, mais il faut quelques images de ça » et c'était parti.
Merci beaucoup Caroline Champetier, vous étiez là ce soir notamment parce que le festival La Rochelle Cinéma, 47e édition, 28 juin au 7 juillet, rend hommage à votre travail. On peut voir plein des films dont vous signez la lumière, je les ai cités tout à l'heure et ils n'étaient pas complets. Rendez-vous sur le site internet du festival, merci à vous. À la prise de son ce soir, c'était Marie le peintre. À la réalisation, Alexandra Longuet. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Valentin Rémy et Marianne Chasseur qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, le journal sur France Culture, le journal de 22h. Et quand vous voulez, franceculture.fr, à la page de Parler Temps qui court, pour le podcast et pour tout le reste. À demain.